France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Une jeune femme qui, après la mort de son père, se souvient de sa jeunesse et des occasions manquées en attendant que le domestique allume le samovar. Dans la première des nouvelles que vous allez entendre, le récit de Mademoiselle N, vous reconnaîtrez très vite l'univers de Tchekhov. Les deux nouvelles suivantes sont plus étonnantes. Dans « Le boa et le lapin », un homme au diabolique talent de séducteur parvient à prendre dans ses filets une innocente femme mariée, le tout avec la complicité involontaire de son benêt de mari. Dans « Les bienfaiteurs », enfin, d'honnêtes villageois assisteront incrédules au prodige de deux étrangers capables, tenez-vous bien, de faire disparaître le soleil. Mélancolie, perfidie et humour, ingrédients habilement et subtilement dosés dans ces trois nouvelles de Tchekhov, choisies et lues par André Dussolier dans l'émission « Bonne nouvelle, grand comédien » proposée par Patrice Galbeau et diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 janvier 1983.
Récit de Mademoiselle N. Tchekhov. C'était il y a environ 9 ans, au moment de la fenaison, à la fin de l'après-midi. Pierre Sergeitch, qui exerçait les fonctions de juge de paix, et moi-même, nous nous rendîmes à cheval à la gare chercher le courrier. Il faisait un temps splendide. Mais au retour, nous entendîmes gronder le tonnerre et vîmes un gros nuage noir et menaçant s'avancer droit sur nous. Il s'approchait et nous allions à sa rencontre. Ce tourbillon de vent et le galop rapide où l'on suffoque dans le vent et où l'on se sent léger comme un oiseau excitent et chatouillent le cœur. À notre arrivée, le vent était déjà tombé et de grosses gouttes de pluie s'écrasaient dans l'herbe et sur les toits. À l'écurie, pas âme qui vive. Pierre Sergeitch décella lui-même les chevaux et les conduisit dans leur box. En attendant qu'il eût fini, je me tenais sur le seuil et regardais les raies obliques de la pluie. L'odeur douceâtre, excitante du foin était plus forte ici que dans la campagne. À cause des nuages et de la pluie, il faisait sombre. « Quel coup de tonnerre !» fit Pierre en s'approchant de moi après un très violent roulement pendant lequel le ciel sembla se déchirer en deux. « Qu'en dites-vous ? » Il était debout à côté de moi sur le seuil et, encore essoufflé du rapide galop, me regardait. Je remarquai qu'il m'admirait. « Mademoiselle Nathalie, dit-il, je donnerais tout pour rester seulement ainsi plus longtemps et vous regarder. Aujourd'hui, vous êtes splendide. » Il avait un regard extasié et suppliant, la figure pâle. Sur sa barbe et ses moustaches brillaient des gouttes de pluie qui semblaient, elles aussi, me regarder avec amour. « Je vous aime, dit-il, je vous aime et suis heureux de vous voir. Je sais que vous ne pouvez être ma femme, mais je ne veux rien, je n'ai besoin de rien, sachez seulement que je vous aime. Ne dites rien, ne répondez pas, ne faites pas attention, sachez seulement que vous m'êtes cher et laissez-moi vous regarder. » Son enthousiasme me gagna. Je regardais sa figure inspirée, j'écoutais sa voix qui se mêlait au bruit de la pluie, et comme sous l'effet d'un charme, je ne pouvais faire un mouvement. Je souhaitais pouvoir indéfiniment regarder ses yeux brillants et l'écouter. « Vous ne dites rien, et c'est très bien, » dit Pierre. « Continuez à vous taire. » Je me sentais bien. Je ris de plaisir et courus à la maison sous la pluie battante. Lui aussi rit et, en quelques bonds, s'élança à ma poursuite. Dans un vacarme d'enfants trempés hors d'haleine faisant sonner l'escalier sous nos pas, nous volâmes dans nos chambres. Mon père et mon frère, qui n'étaient pas habitués à me voir riante et joyeuse, me regardèrent avec surprise et se mirent à rire eux aussi. Les nuages d'orage étaient passés, le tonnerre s'était tu, mais sur la barbe de Pierre brillaient encore des gouttes de pluie. Tout le soir, jusqu'à l'heure du dîner, il chanta, siffla, joua bruyamment avec le chien, le poursuivant à travers l'appartement, manquant renverser le domestique qui apportait le samovar. À dîner, il dévora, dit des sottises, et assura que quand on mange des concombres frais en hiver, on a dans la bouche une odeur de printemps. Au moment de me coucher, j'allumai une bougie, ouvris la fenêtre toute grande, et un sentiment indéfinissable s'empara de mon âme. Je me souvins que j'étais libre, bien portante, de haut rang, riche, qu'on m'aimait, et surtout que j'étais de haut rang et riche. De haut rang et riche, que c'est beau, mon Dieu. Puis, tout en me pelotonnant dans mon lit, sous la légère fraîcheur qui montait du jardin avec la rosée, j'essayais de comprendre si j'aimais ou non Pierre Sergeïtch. Et, n'ayant rien compris, je m'endormis. Mais quand je vis au matin sur mon lit des taches tremblotantes de soleil et les ombres du tilleul, ma mémoire eut au fait de revivre les événements de la veille. La vie me parut riche, variée, pleine de charme. Un refrain aux lèvres, je m'habillai à la hâte et courus au jardin. Ce qui arriva ensuite, rien. En hiver, quand nous habitions en ville, Pierre venait parfois chez nous. Les amis de campagne ne sont charmants qu'à la campagne et en été, mais en ville et l'hiver, ils perdent la moitié de leur agrément. J'étais aimé, le bonheur était à côté de moi et, semblait-il, vivait avec moi, épaule contre épaule. Je vivais dans l'insouciance, sans essayer de me comprendre, sans savoir ce que j'attendais et ce que je voulais de la vie, et le temps s'écoulait. Des gens passaient devant moi avec leur amour. Jours sereins et nuits chaudes se succédaient, les rossignols chantaient, le foin embaumait, et tout cela, si charmant, si étonnant au souvenir, pour moi-même comme pour tous, a passé rapidement, sans laisser de traces, sans être apprécié, et s'est évanoui comme un brouillard. Où est tout cela? Mon père mourut, je vieillis. Tout ce qui plaisait, flattait, donnait de l'espoir, le bruit de la pluie, les grondements du tonnerre, la pensée du bonheur, les conversations sur l'amour, tout cela n'est plus qu'un souvenir. Et je vois devant moi une vaste étendue déserte. Dans la plaine, pas âme qui vive, et là-bas, l'horizon est sombre, effrayant. Un coup de sonnette. Pierre. Quand je vois les arbres en hiver et que je me rappelle comme ils étaient verts pour moi en été, je murmure « Mes chéris ». Et quand je vois des gens avec qui j'ai passé mon printemps, je suis prise de mélancolie, j'ai chaud au cœur et je murmure la même chose. Depuis longtemps, par la protection de mon père, il a été muté en ville. Il a un peu vieilli, s'est un peu voûté. Il a depuis longtemps cessé de me faire des déclarations. Il ne débite plus de folie, il n'aime pas son métier. Il est comme malade, désenchanté, il a tourné le dos à l'existence et vit à contre-cœur. Il s'est assis près de la cheminée. Il a regardé silencieusement la flamme. Ne sachant que dire, je lui ai demandé « Eh bien ?»« Rien », répond-il. Et c'est de nouveau le silence. Le reflet rouge de la flamme s'est mis à danser sur son visage triste. Le passé m'est revenu en mémoire et tout à coup mes épaules ont tremblé, ma tête s'est inclinée et j'ai pleuré amèrement. J'ai éprouvé une pitié intolérable pour moi-même et pour cet homme et j'ai désiré passionnément ce qui était passé et que la vie nous refuse aujourd'hui. Et je ne pensais plus alors que j'étais de haut rang et riche. J'ai sangloté tout haut en me serrant les tempes et j'ai bredouillé « Mon Dieu, ma vie est perdue. » Il est resté assis, silencieux, et ne m'a pas dit « ne pleurez pas ». Il comprenait qu'il fallait pleurer et que le temps était venu. Je voyais à ses yeux qu'il avait pitié de moi. Moi aussi, j'éprouvais de la pitié pour lui et du dépit contre ce malchanceux timide qui n'avait su faire ni ma vie ni la sienne. Quand je l'ai reconduit dans le vestibule, à ce qu'il m'a semblé, il a mis exprès longtemps à enfiler sa pelisse. Il m'a baisé deux fois la main sans maudire et a regardé longuement mon visage gonflé de larmes. Je pense qu'à cet instant, il se souvenait de l'orage, des raies de pluie, de notre rire, de mon visage d'alors. Il voulait me dire quelque chose et il aurait été heureux de le dire, mais il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de secouer la tête et de me serrer fortement la main. Dieu soit avec lui. Après l'avoir accompagné à la porte, je suis revenu dans mon bureau et me suis assise à nouveau sur le tapis devant la cheminée. Les braises rouges se sont couvertes de cendres et ont commencé à s'éteindre. Le gel a frappé au carreau avec une fureur accrue et le vent s'est mis à ronfler dans la cheminée. La femme de chambre est entrée et me croyant endormi, m'a appelé. Le boa et le lapin, Anton Tchekhov. Pierre Semenitch, un individu usé et chauve, vêtu d'une robe de chambre de velours à glands, framboise, lissa ses favoris duveteux et poursuivit. « Eh oui, mon cher, si vous le voulez, il y a encore un moyen. C'est le moyen le plus subtil, le plus intelligent, le plus perfide et le plus dangereux pour les maris. Il n'est compris que des psychologues et des connaisseurs du cœur féminin. Avec lui, condition sine qua non, de la patience et encore de la patience. Qui ne sait attendre et patienter ne saurait s'en servir. D'après ce moyen, vous qui cherchez à séduire une femme, vous vous éloignez d'elle le plus possible. Quand vous éprouvez pour elle une inclination comme une maladie, vous cessez de la fréquenter. Vous la rencontrez le moins souvent possible, un simple instant, puis vous vous refusez le plaisir de bavarder avec elle. Vous agissez alors à distance. Tout consiste en une espèce d'hypnotisme. Elle ne doit pas vous voir, mais doit vous sentir comme le lapin sans le regard du boa. Vous l'hypnotisez non du regard, mais par le venin de votre langue. En outre, le mari lui-même peut être pour vous le meilleur agent de liaison. Par exemple, je suis amoureux de Madame N.N. et désire la séduire. Je vais au club ou au théâtre pour y rencontrer son mari. « Comment va madame ?» lui demandai-je, entre autres. « Une femme charmante, je vous assure, c'est fou ce qu'elle me plaît, Dieu ce qu'elle me plaît. »« Hein ? En quoi vous a-t-elle tant plu ?» fait le mari content. « C'est un être ravissant, poétique, capable d'émouvoir et de rendre amoureux une pierre. Du reste, vous les maris, vous êtes prosaïques et ne comprenez vos femmes que le premier mois de votre mariage. Comprenez que votre femme est une femme absolument idéale. » Comprenez-le et réjouissez-vous que le destin vous ait donné une pareille épouse. C'est justement des femmes pareilles qu'il faut de nos jours, des femmes pareilles. « Et qu'a-t-elle de particulier ?» demande le mari, perplexe. « Voyons, c'est une beauté, un être plein de grâce, de vie et de vérité, poétique, sincère et en même temps énigmatique. Quand on aime des femmes pareilles, on les aime avec violence, de toute sa flamme. » Et ainsi de suite, dans ce goût-là. Le mari, le même jour, au moment de se mettre au lit, ne peut s'empêcher de dire à sa femme « J'ai vu Monsieur Semenitch, il m'a fait de toi un éloge formidable, il est emballé. Tu es une beauté, un être gracieux, énigmatique. On croirait à l'entendre que tu es capable d'aimer d'une manière particulière. » Ce qu'il a pu me dire. Après quoi, je me débrouille sans la voir pour rencontrer à nouveau son mari. À propos, mon cher, lui dis-je, j'ai eu hier la visite d'un peintre. Il a reçu d'un prince commande pour 2000 roubles d'une tête de beauté russe typique. Il m'a demandé de lui trouver un modèle. Je voulais l'adresser à votre femme, mais je n'ai pas osé. Elle ferait très bien. Une tête splendide. Je suis terriblement vexé que le peintre ne voit pas ce merveilleux modèle. Terriblement vexé. Il faudrait être un mari bien peu amoureux pour ne pas rapporter cela à sa femme. Le matin, elle se contemple longuement dans son miroir et songe « Où a-t-il pris que j'ai un visage purement russe ?» Après quoi, chaque fois qu'elle se regarde dans son miroir, elle pense à moi. Pendant ce temps, vos rencontres inopinées avec son mari se poursuivent. Après l'une d'elles, il rentre chez lui et se met à examiner le visage de sa femme. « Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ?» demande-t-elle. « Ce phénomène de Semenitch trouve que tu as un œil plus sombre que l'autre. »«
Je ne trouve pas. Quand même, on me tuerait. »
La femme se remet devant son miroir. Elle s'inspecte longuement et songe. « Oui, j'ai l'impression que mon œil gauche est plus sombre que mon droit. »« Non, j'ai l'impression que c'est le droit. » »«
D'ailleurs, peut-être que ça lui plaît comme ça. »
Après la 8e ou 9e rencontre, le mari dit à sa femme « J'ai vu Semenitch au théâtre. Il te prie de l'excuser de ne pas venir te voir. Il n'a pas le temps. Il dit qu'il est très occupé. J'ai l'impression que cela fait 4 mois qu'on ne l'a pas eu à la maison. J'ai commencé à l'attraper, mais il s'excuse et dit qu'il ne viendra pas avant d'avoir fini certain travail. »
« Et quand le finit-il ? » demande sa femme.
« Il dit pas avant une semaine ou deux. »
« Qu'est-ce qu'il fait comme travail ? Ce musard-là, le diable le sait. »
Un phénomène, ma parole. Il m'a harcelé, comme s'il me mettait le couteau sur la gorge. Pourquoi votre femme ne fait-elle pas du théâtre? Avec des dehors distingués comme ça, dit-il, avec une sensibilité si développée et si déliée, c'est péché de rester chez soi. Elle doit tout abandonner et suivre sa voie intérieure. Les cadres de l'existence n'ont pas été créés pour elle. Des natures comme elle doivent se trouver hors du temps et de l'espace.
La femme, naturellement, ne saisit que confusément cette rhétorique, mais elle le cache et perd le souffle de ravissement.
Quelle baliverne, fait-elle en s'efforçant de paraître indifférente.
Et qu'a-t-il dit encore?
Si je n'étais pas si occupé, je vous l'enlèverais.
Eh bien, ai-je dit enlevez-la, je ne vous provoquerai pas en duel.
Vous ne la comprenez pas, a-t-il crié. Il faut la comprendre. C'est une nature rare, puissante, qui cherche libre carrière. Dommage que je ne sois pas Tourgueniev. Il y a longtemps que je l'aurais décrite. Oui, oui.
Tu lui as tapé dans l'œil. Ah, j'ai pensé, mon vieux, si tu avais vécu 2 ou 3 ans avec elle, tu chanterais une autre chanson. Phénomène.
Et une envie terrible de me rencontrer s'empare peu à peu de la pauvre femme. Je suis le seul qui l'ait comprise. Le seul à qui elle puisse se confier. Mais je fais exprès de ne pas aller chez elle et de ne pas la rencontrer. Elle ne m'a pas vu de longtemps, mais mon venin aux suaves tortures a déjà fait effet. Le mari, en bâillant, lui répète nos propos et lui semble entendre ma voix, voir l'éclair de mes yeux. Arrive le moment de saisir l'occasion. Un soir, le mari rentre et dit « Je viens de rencontrer Semenitch, ennuyé, triste, l'air découragé.
Pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive?
Tu ne devineras pas, il se plaint d'avoir le cafard. Je suis seul, dit-il, ni proche, ni ami, pas d'âme qui me comprenne et ne fasse qu'une avec la mienne. Personne ne me comprend, dit-il, et je ne souhaite qu'une chose, la mort.
Quelle sottise, dit la femme, et elle pense.
Le pauvre, je le comprends parfaitement, moi aussi je suis seul. Personne ne me comprend sauf lui. Qui, sinon moi, comprendrait son état d'âme?
Oui, c'est un grand phénomène, poursuit le mari. De cafard, dit-il, je ne rentre pas chez moi, je me promène toute la nuit sur le boulevard de N.
La femme prend feu et flamme. Elle a une envie terrible d'aller boulevard de N et de regarder, au moins d'un œil, l'homme qui a su la comprendre et a maintenant le cafard. Qui sait? Si elle lui parlait, lui disait 2 mots de consolation, peut-être cesserait-il de souffrir. Si elle lui disait qu'il a un ami qui le comprend et l'apprécie, il ressusciterait moralement. Mais c'est impossible. Étrange, songe-t-elle. Même y penser est inconvenant. Je parie que tu vas encore tomber amoureuse. J'en ai peur et c'est étrange. Stupide. Après avoir attendu que son mari soit endormi, elle soulève sa tête brûlante, met un doigt sur ses lèvres et songe. Et si j'essayais de sortir tout de suite? Après, elle pourra inventer quelque chose, dire qu'elle est allée à la pharmacie, chez le dentiste. J'y vais, décide-t-elle. Son plan est prêt. Elle descendra par l'escalier de service, prendra un fiacre jusqu'au boulevard, passera devant lui, le regardera et reviendra sur ses pas. Son plan est prêt. Elle descendra par l'escalier de service, prendra un fiacre jusqu'au boulevard, passera devant lui, le regardera et reviendra sur ses pas. Comme ça, elle ne se compromettra pas, ni ne compromettra son mari. Et elle s'habille, sort sans bruit, et se hâte vers le boulevard de N. Le boulevard est sombre, désert. Les arbres dénudés dorment. Personne. Mais voici qu'elle aperçoit une silhouette. Ce doit être lui. Tremblant de tous ses membres, hors d'elle-même, elle s'approche lentement de moi. Je vais à elle. Une minute, nous restons immobiles, silencieux, et nous nous regardons dans les yeux. Il s'écoule encore une minute de silence, et le lapin sans défense tombe dans la gueule du boa. Lorsque le garçon lui eut énuméré les quelques plats que l'on peut se faire servir dans une auberge, il réfléchit et dit « Dans ce cas, donnez-moi 2 assiettées de soupe aux choux frais et 1 poulet, et demandez au patron s'il a du vin rouge. » Puis, tous l'ont vu regarder au plafond et entendu dire au garçon « C'est étonnant ce qu'il y a de mouches chez vous. » Nous disons « il » parce que ni les garçons, ni les patrons, ni les clients ne savaient quels étaient son nom, sa situation sociale, d'où il venait et ce qui l'amenait dans notre ville. C'était un monsieur robuste, d'un certain âge, très bien habillé et apparemment bien intentionné. À sa mise, on pouvait même le prendre pour un aristocrate. Nous avions remarqué qu'il avait une montre en or, une épingle de cravate sertie d'une perle, et dans son chapeau de castor, il avait déposé des gants avec des boutons à la mode, comme nous en avions vu auparavant au vice-gouverneur. Pendant le repas, il a cherché sans arrêt à briller devant nous par son éducation. Il tenait sa fourchette de la main gauche, s'essuyait avec sa serviette et fronçait les sourcils quand des mouches tombaient dans son verre. Chacun sait que, où il y a des mouches, la vaisselle ne peut être propre. Sans parler des simples clients, même des personnages comme le commissaire rural, l'huissier et les gentilshommes campagnards de passage, s'arrêtant pour déjeuner, ne se plaignent pas quand on leur sert une assiette ou un verre souillé par les mouches. Lui ne mangeait pas avant que le garçon n'eût rincé les assiettes à l'eau bouillante. Visiblement, il faisait des façons et voulait passer pour plus noble qu'il n'était en réalité. Quand on lui a servi la soupe au chou, s'est approché de sa table un nouveau personnage, inconnu aussi, chauve, glabre, avec des lunettes à monture d'or. Ce nouveau monsieur portait un complet de soie et avait lui aussi une montre en or. Il n'a cessé de parler français, d'examiner avec curiosité les mets et les clients. Aussi était-il facile de reconnaître en lui un étranger. Qui il était, d'où il venait et ce qu'il amenait dans notre ville, nous ne le savions pas non plus. Après la première cuillerée de soupe, il, l'homme à l'épingle sertie d'une perle, a tourné la tête et dit d'un ton moqueur, ces idiots trouvent moyen de donner le goût de faisander même à des choux frais. C'est immangeable. Dites donc, mon cher, tout le monde vit ici comme des cochons. Dans toute la ville, on ne peut se faire servir une assiettée de soupe aux choux un peu convenable. C'est ahurissant. Puis il s'est mis à raconter quelque chose en français à son commensal étranger. Dans ses propos, nous n'avons compris que le mot « cochon ». Il a retiré une blatte de sa soupe et dit au garçon « Je n'ai pas demandé une soupe au cafard, abruti !»« Monsieur, a répondu le garçon, ce n'est pas moi qui l'y ai mis, il y est tombé tout seul. Ne vous inquiétez pas, les cafards ne mordent pas. » Après le poulet, il a réclamé du papier et un crayon, dessiné des ronds et écrit des chiffres. L'étranger n'était pas d'accord et a discuté longuement avec lui, marquant son désaccord par des signes de tête. La feuille noire de ronds et de chiffres est encore entre les mains du patron. L'inspecteur primaire, à qui il l'a montré, a examiné longuement les ronds, puis poussé un soupir et dit « C'est de l'hébreu ». Au moment de payer, il, c'est-à-dire l'homme à la perle sur la cravate, a présenté un billet de 5 roubles neufs. Était-il vrai ou faux? Nous ne le savons pas parce que nous n'avons pas eu l'idée de regarder. « Dites, à quelle heure ouvrez-vous le matin ? » a-t-il demandé au garçon. « Au lever du soleil. »« Bien. Demain, à 5 heures, nous viendrons prendre le thé. Préparez à manger, mais sans mouche. »« Et tu sais ce qui se passera demain matin ? » a-t-il fait avec un clin d'œil rusé. « Pas du tout. »« Ah. Demain matin, vous serez stupéfait et abasourdi. » Après pareille menace, il a dit en riant quelque chose à l'étranger, et tous deux sont sortis. Ils ont couché tous deux chez Madame Egorovna, une veuve seule, pieuse, qui n'est nullement coupable et ne pouvait être complice. Maintenant, elle ne cesse de pleurer, craignant d'être arrêtée. Connaissant sa façon de penser, nous essayons de la convaincre qu'elle n'est pas coupable. En outre, jugez-vous-même, pouvait-elle, en hébergeant ces gens, deviner à l'avance leurs intentions ? Le lendemain matin, à 5 heures précises, les inconnus étaient à l'auberge. Cette fois-là, ils portaient des serviettes, des livres et des étuis de forme bizarre. Leurs propos et leurs gestes trahissaient l'émotion et la hâte. Il, c'est-à-dire l'étranger, a dit « Il arrive un nuage du nord, pourvu qu'il ne nous dérange pas. » Après avoir bu un verre de thé, il a appelé le patron et s'est fait installer devant l'auberge, sur une petite place, une table et 2 chaises. Le patron, un homme sans instruction, quoiqu'il eût de mauvais pressentiments, s'est exécuté. Les inconnus ont pris leurs affaires et, sortant de l'auberge, se sont installés sur les chaises autour de la table. Ils se sont étendus de tout leur long au milieu de la place, devant tout le monde. Quelle sottise! Tout en parlant entre eux, ils ont disposé sur la table des papiers, des cahiers, des verres fumés et des sortes de tubes. Quand le patron s'est approché timidement et s'est penché sur la table, il, c'est-à-dire l'homme à la perle, l'a écarté de la main et lui a dit « Ne fourre pas ton gros nez où il ne faut pas !» Puis il a regardé l'heure et après avoir dit quelque chose à l'étranger, s'est mis à examiner le soleil dans son verre fumé. L'étranger a pris un des tuyaux et regardé dans la même direction. Il n'a pas tardé à se produire une catastrophe étrange, jusqu'alors inconnue. Soudain, nous avons vu le ciel et la terre s'obscurcir, comme lorsqu'un orage approche. Quand l'étranger a posé le tuyau et, après avoir noté rapidement quelque chose, a pris un verre fumé, nous avons entendu crier « Messieurs, le soleil se cache !» Effectivement, quelque chose de noir, tout à fait semblable à une poêle, s'est avancé vers le soleil et l'a dérobé aux yeux. En voyant qu'il restait déjà moins de la moitié du soleil et que les inconnus poursuivaient leur étrange activité, certains d'entre nous ont dit à l'agent de police Vlasov « Agent, pourquoi ne fais-tu pas attention au désordre ?» Il a répondu « Le soleil n'est pas dans mon quartier. » Avec un pareil laissé-aller de la part des autorités locales, nous n'avons pas tardé à voir disparaître tout le soleil. La nuit est venue, et où était passée la lumière du jour, personne ne le sut. Des étoiles ont apparu dans le ciel, une arrivée si intempestive de la nuit dans notre ville a provoqué les événements suivants. Nous avons tous eu horriblement peur et avons été plongés dans le désarroi. Ne sachant que faire, pris de panique, nous courions par la place et nous bousculant les uns les autres, crions « Police, police !» Vaches, taureaux et chevaux, c'était à ce moment-là la foire du bétail. La queue en l'air et dans un concert de meuglements et de hennissements erraient, épouvantés par la ville, effrayant les habitants. Beaucoup de dames, éveillées par le bruit, sont sorties sans avoir même mis leurs souliers. Il s'est passé aussi beaucoup de choses que nous avons décidé de ne révéler qu'à huis clos. Seuls n'ont pas pris peur et ont conservé leur présence d'esprit les pompiers, qui à ce moment-là dormaient à point fermé. Ce que nous nous empressons de certifier. Tout cela s'est passé le 7 août au matin. Les inconnus, leur sale besogne ainsi accomplie, ont rentré leurs papiers dans leurs serviettes et quand le soleil a reparu, sont montés dans une voiture et ont filé on ne sait où.
Bonne nouvelle, grand comédien. André Dussolier lisait trois nouvelles de Tchekhov dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 janvier 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.